ce soir une émission un petit peu spéciale.
Et bonjour.
Eh oui, bonjour Jérémy.
En fait, j'ai été perturbé par ta sublime coiffure.
Eh oui, c'est ma tête chauve et luisante qui perturbe l'antenne, mesdames et messieurs. Donc vous êtes bien, vous l'avez reconnu, à l'écoute de votre Blabla Mix sur le mix des cultures, hein, chez Radio HDR et chez nos amis de Principe Actif, à Évreux et dans le sud de l'Eure. Pour ce soir, une émission un peu spéciale, puisque c'est une émission un peu spéciale, Journée Internationale du Droit de la Femme. Et c'est d'autant plus spécial, puisque pour cette Journée Internationale du Droit de la Femme qui arrive demain, nous ne sommes que des hommes dans ce studio.
Bravo.
Ah, c'est pas de notre faute, c'est les circonstances qui sont comme ça, mais on recevra tout à l'heure une dame. Alors nous sommes, vous l'avez reconnu, en compagnie de celui que certains appellent le Adonis des Hauts-de-Rouen, Jérémy. Salut Jérémy.
Bonjour.
Et également avec nos très chers Buron et Victor qui sont aujourd'hui dépités et abattus.
Ah ouais, non, on est vraiment pas bien.
Hier, le drame a eu lieu, ils vous en parleront, PSG a perdu.
Exactement.
Voilà, bon, bah, une ambiance un peu tristoune du coup maintenant dans ce studio. Heureusement, on a de la musique pour se mettre en chauffe et pour se remonter le moral. Jérémy, qu'est-ce que tu nous as concocté ?
Ouais, je vais commencer par un morceau qui s'appelle Make Me Go Crazy du groupe Change, mais remixé par l'artiste Opolopo. Et c'est parti. Et vous êtes toujours sur HDR, le Blabla Mix.
Le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
Et voilà, donc comme vient de le dire ce charmant jingle, vous êtes toujours sur HDR, le Blabla Mix. Et le HDR, c'est une radio qui bouge, Jérémy.
Et pour cette journée de la femme, un cinquième homme vient de nous rejoindre
et oui,
dans
tout
les studios.
À fait.
Et oui, je pense que Marie aurait honte de nous si elle nous voyait là.
HDR, c'est une radio qui bouge, mais c'est une radio qui, le jeudi, est principalement composée d'hommes, hein, puisque nous avons été rejoints par Ousmane. Salut Ousmane.
Salut, je suis là pour parler de foot.
On va parler de foot. Ousmane,
Ousmane a entendu que le micro avait été laissé à des supporters du PSG, c'est inacceptable.
Sûr.
Je viens dans le blabla mix et je vais recadrer tout ça.
Bah ouais, j'aurais aimé que ce soit Nico à côté, parce que les Parisiens à côté, ils auraient eu pour leur dose.
On a intérêt à bloquer la porte du studio, à mon avis, il va y avoir de l'action. Et également, je manque à tous mes devoirs, puisque HDR, bien sûr, c'est une radio où il y a beaucoup d'hommes, mais c'est aussi une radio où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas avec nous et qui sont quand même un petit peu avec nous. Je pense au Doc Mansour, bien sûr, rassurez-vous, qui aura bien sûr sa chronique à 17h15, ça, il n'y a pas de souci. Et notre invité, évidemment, qui sera Madame Fatima Milesi, et qui viendra nous parler de la Journée internationale du droit des femmes, Journée internationale des femmes, autant pour moi, et du colloque Venez nombreuses pour participer et échanger, qui aura lieu vendredi, donc demain. Et avant ça, bien sûr, puisque c'est quand même la journée du droit des femmes, je vous en parle depuis 7 minutes que nous sommes à l'antenne, il est peut-être temps qu'on en parle un petit peu plus précisément. Vous êtes sans doute au courant qu'en ce moment, c'est Rouen donne des ailes, voilà, donc à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes, Rouen organise un petit peu cet événement sur la thématique des femmes, du féminisme, des droits des femmes. Donc Rouen donne des ailes, ça dure du 5 au 30 mars, alors là il y a tout, il y a des expositions, du sport, du théâtre, des débats, des conférences, des concerts, des expos, des lectures, des ateliers, tout ça sur cette thématique un petit peu problématique encore aujourd'hui malheureusement du droit des femmes. Et si vous voulez retrouver un petit peu toutes ces actus-là, nous on va vous en parler bien sûr au Blabla Mix, mais vous pouvez aussi les retrouver sur le site de rouen.fr, rubrique événements. Et donc dans ce cadre, le Centre Malraux, nos amis du Centre Malraux, participent à l'événement Le Sport Donne des Ailes en partenariat avec l'ASPTT. Donc le Centre Malraux va proposer aux femmes à partir de 14 ans de venir découvrir différents sports et différentes activités allant du self-défense à la sophrologie. Donc il y a vraiment de tout. Le tout encadré par des animateurs diplômés. Il y aura à manger une garde d'enfance qui peut être très pratique puisque parfois il y a les enfants, on ne peut pas aller faire d'activité. Donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas participer. L'entrée sera gratuite, les participations bien sûr gratuites. Par contre, il faut vous inscrire. Et ça se passe sur le site le-sport-don-d-l-rouen. .aspt.com. Voilà, bon, c'est un petit peu technique, mais vous faites ça et vous êtes tranquille. Et si vous voulez bien sûr retrouver tous ces événements qu'on vient de vous annoncer plus ou moins vite de Rouen donne des ailes, vous allez les retrouver sur le blog des quartiers de Radio HDR, www.radiohdr. Maintenant, petite minute traditionnellement masculine, hein, je sais que beaucoup de ces dames font du football, mais là on est entre hommes qui sont tous très énervés, énervés de la défaite du PSG hier, ça a été tendu dans les studios toute la journée. Messieurs, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match, moi qui n'ai pas regardé?
Ah, franchement, ce match c'est n'importe quoi, hein, clairement. Le PSG méritait de sa place en qualification en quart de finale, malheureusement on s'est fait voler le match comme d'habitude, hein, pour pas changer par les arbitres, ils nous détestent. C'est pas grave. Le penalty qui a été accordé pour Manchester United, qui n'était pas vraiment un penalty, car si on veut rentrer dans les détails.
Ah bah on rentre dans les détails, c'est un HDR.
Trouvez des excuses à votre défaite.
C'est pas une excuse.
Le tir n'était pas cadré.
Il a été revu et vu et des centaines de fois. Le tir n'était pas cadré. Et en plus, le joueur était de dos. Et la main n'était pas vraiment genre décollée de fou. Donc à partir de ce moment-là,
la main était décollée de fou.
Non, elle était
mais
pas...
le tir n'était pas cadré.
Non, les deux. En plus, Kimpembe était de dos. Il y a pas pénalty.
Moi, juste, je demandais. Enfin, l'année dernière, vous avez perdu contre une équipe espagnole, donc il y en a appelé ça la remontada.
Ouais.
Alors, non, bon, on appellera ça comment ça leur a été fait guerre.
Là, c'est les arbitrages à dada, parce que c'est pas possible.
C'est les Victor, arbitres. tu te fais timide. Là, vas-y, dis-nous toi ton opinion. Est-ce qu'elle est aussi tranchée que celle de Buron?
Ah ouais, je peux dire que oui, parce que là, on sait très bien que normalement, une équipe qui a gagné 2-0 à l'extérieur et perdre 3-1 à cause d'un pénalty à la dernière minute, si c'était moi l'arbitre, je pense que...
La main était-elle collée? La main était-elle collée? Le tir était-il...
Il était un peu décollé, mais pas trop quand même.
En plus, il était de dos. N'oublions pas, il était de dos, il a sauté, il a fait un geste défensif. Donc à partir de
Ousmane, main collée, main décollée?
Collé ou pas décollé, ce qu'on constate à chaque fois que vous arrivez là-bas, vous gagnez à l'extérieur, vous, on arrive chez vous et vous prenez.
Mais c'est pas nous les coupables, c'est les arbitres.
C'est les arbitres.
Non, mais d'accord, il y a l'arbitrage, mais avec tous les joueurs que vous avez pas honte de dire que c'est à cause de l'arbitre, franchement.
Non,
avec
c'est
le pas budget non. que vous avez.
Bah non, bien sûr que non.
Bien sûr que non.
Neymar, il était où?
Attendez,
Neymar,
il est blessé.
Laissez la parole à Jérémy.
Attendez, parce que moi, je regarde pas le foot, enfin, sauf pendant la Coupe du Monde, évidemment. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les Parisiens ont fait une main, en fait.
Non, oui, en fait, c'est ça, la dernière minute.
Il a dit oui, il a dit oui.
Non,
il l'a avoué. Il l'a avoué à l'antenne
oui,
en direct.
Non, c'est pas ça. C'est,
mais oui, ils ont fait oui. une main. C'est que, la main, elle était faite. Mais c'était. Tu peux pas donner un pénalty comme ça. À 93ème pour une main qui est à peine humaine. En plus, le tir, il était même pas cadré. Quand à partir du moment où le tir n'est pas cadré, il n'y a pas main.
Moi qui ne m'y connais pas bien en football, Ousmane, j'aimerais te poser une question. J'aimerais que tu m'expliques. Est-ce que c'est possible une main qui est à peine une main?
Non. Une main, c'est une main. Sinon, ça n'est pas.
Main dans la surface, c'est péno direct.
C'est pas.
Mais c'est une habitude aussi pour le club parisien de faire autant de départs et puis arriver à jouer aux éliminatoires. Et
d'avoir que des problèmes.
Même au-delà de ce penalty, le match, il s'est pas super bien passé. Comme le PSG était dominé. À quoi c'est dû, ça?
Il y a eu plusieurs fautes de joueurs par minute. Kerrer qui nous met une passe en profondeur, mais pas pour
fallait
nous, malheureusement.
Fallait commencer par vos propres fautes au lieu de pointer du doigt. Voilà,
j'aimerais quand même poser une question. Ce match, je suis assez surpris que tu ne nous as pas encore dit « Nous, on a une étoile, vous n'avez pas d'étoile.
» Oh non,
non, ça, ouais, c'est ouais, facile, non, ça c'est facile. Allez, j'aurais dit « C'est facile, c'est facile. »
Ça a été quand?
Mais c'est il y a plus de 20 ans, enfin plus de 30
c'était
ans.
C'était en 1900, on est en 2019, là il y a 2019. Du vrai niveau. 1993, c'était des grands-pères qui jouaient, c'était pas des vrais joueurs.
Écoutez les mecs.
Arrêtez,
tout à l'heure, tu as dit que Paris méritait sa place. Bien sûr, financièrement, méritait sa place.
Talentueux. Parlant,
à quoi ça sert d'avoir une équipe qui n'est pas capable de gagner les matchs les plus importants?
Il vous a montré à Manchester United, il vous a montré 2-0, il les a pas laissé bouger.
Comment allez, vous pouvez aller gagner en Angleterre?
Messieurs, le débat va se poursuivre. Le débat va se poursuivre, ça c'est sûr. La musique adoucit les mœurs, Jérémy, il paraît.
Ouais, on va voir ça. Je vous propose Caramelo Duro de l'artiste Miguel.
99.1 et 102.4 FM.
C'est l'heure maintenant de la chronique de Mansour qui va nous parler, je crois encore, de crimes organisés comme c'est son habitude en ce moment, les mafias, Al Capone, tout ça. Bonjour Mansour.
Bonjour. Donc, comme on avait vu la semaine dernière avec Al Capone et sa fameuse chute, où il s'est retrouvé Alcatraz et après... plus ou moins gardé chez lui parce qu'il était atteint de syphilis, que ça avait atteint le cerveau et qu'il avait régressé. De l'autre côté, à New York, nous avons Lucky Luciano qui, lui, est en train d'organiser tout son business. Et en fait, le fait qu'il ait vu Al Capone se faire épingler pour fraude fiscale, à partir de là, Lucky Luciano, qui est quelqu'un de très intelligent et intuitif, avec Meyer Lansky, son bras droit et conseiller en réalité, ils vont en fait faire en sorte d'avoir des revenus un peu plus légaux. Donc en fait, ils vont blanchir de l'argent en réalité. Ils vont se trouver des activités totalement légales dans le textile, alors qu'ils avaient déjà parasité le textile de façon illégale. Sur le port avec les dockers, avec le syndicat, ils essayent de faire en sorte de pouvoir faire tout ce qu'ils peuvent. Le jeu commence plus ou moins à se légaliser, et comme ils sont déjà dedans, c'est encore mieux. D'ailleurs, en parlant de jeu, il avait même organisé quelque chose, c'est que les hippodromes, les casinos et les salles de jeu ne concernent qu'une espèce d'élite. Ouais. Et des gens qui ont un minimum d'argent. Et en fait, il va commencer à organiser en fait des loteries quotidiennes.
Des loteries quotidiennes.
Quotidiennes, et en fait, vous pouviez parier 5 ou 10 cents.
Ouais.
C'est-à-dire que même les petits gens pouvaient s'acheter leur billet de loterie, alors qu'eux-mêmes connaissaient déjà les numéros qui allaient être tirés.
Ouais, ça c'est l'école Rollstein un peu.
Voilà. Donc là, ils engrangent des milliers et des milliers d'argent, des milliers, voire des millions, juste grâce à ça. Et lui, il commence à bien réfléchir à ce qu'il va faire. Il dit, bon, Al Capone s'est fait coincer. En même temps, il était trop exubérant. Donc, il organise cette structure-là. Et il dit qu'en fait, il ne doit pas vraiment avoir de vrai chef dans la mafia. Et là, il commence à organiser ces fameuses, ce qu'on appellera les cinq grandes familles. Et en fait, il commence vraiment à organiser ça en disant, voilà, il faut qu'il y ait une décision commune. Avec des règles, bien sûr. C'est-à-dire... on essaie de pas trop se doubler. Chacune aura des secteurs d'activité plus ou moins bien balisés, mais comme tout le monde sait, tout le monde essaie de grignoter sur les uns et les autres. Et lui va établir des règles qui est, on ne tue pas un procureur, on ne tue pas un avocat et on ne tue pas un policier gratuitement.
C'est de la mauvaise pub.
Ouais. Non seulement c'est de la mauvaise pub, mais ça peut apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de soucis. Et le fait qu'il ait fait ça fait que beaucoup vont respecter ces règles-là. Et ceux qui enfreignent ces règles sans qu'ils aient l'accord des familles et de celui qui les dirige se retrouvera dans de très mauvais draps.
Ouais, les familles ont un système un peu de justice qui leur est propre.
Ah, complètement. Et en plus, généralement, on finit très très mal. Donc, avec toutes ces familles-là, il fait en sorte que, par exemple, il a été avec Joe Masseria. D'ailleurs, c'est eux, ils vont déclencher une guerre des gangs à un moment. Mais tout s'organisera de façon à ce que toutes les familles gagnent autant d'argent qu'ils peuvent, que le business continue à tourner et que, en fait, la façade légale prenne le dessus. Mmh. Parce que la façade illégale, même si ça engrange énormément d'argent, il faut commencer à le blanchir. Et en fait, il va commencer vraiment à le blanchir en fait en 1929 avec la crise, sachant qu'ils avaient parasité quasiment tous les syndicats.
Ouais, c'est pratique à bien des points de vue finalement.
Voilà, donc dans le bâtiment, ils pouvaient embaucher des gens, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient, et on a fait énormément appel à eux par rapport à ce qu'il y avait à faire comme boulot, même des sénateurs, des maires, ils finançaient même carrément des campagnes, des élections, des campagnes électorales. Si on avait besoin d'argent et du réseau d'influence, fallait bien passer par ces personnes-là.
Il devait être plutôt connu finalement, je veux dire, les gens devaient savoir Lucky Luciano...
C'est un homme d'influence, avec autant de pouvoir qu'il pouvait avoir. Et en fait, Masseria, qui avait déclenché en 1929 une espèce de guerre, et à cette partie-là qu'on appellera le syndicat du crime d'ailleurs, toute cette organisation. Et en fait, comme Lucky Luciano voit que Masseria est un peu en dilettante, et ben en fait, il souhaite devenir en fait le patron de New York. Et en 1931, Luciano élimine Masseria. Il le fait éliminer. Parce que son Masseria avait déjà perdu cette guerre. Et donc, Luciano voit qu'il est en position de force par rapport à plein d'autres. Mais comme il est beaucoup plus intuitif que d'autres, et comme il a investi plusieurs secteurs d'activité...
Mais là, il y a déjà les grandes familles à cette époque-là.
Ouais, ça commence, mais il faut quand même devenir le parrain.
D'accord, donc oui, donc il n'y a pas de souci avec les grandes familles s'il fait tuer Masseria...
Bon, en fait, c'est au moment où Masseria, c'est définitivement... est définitivement éliminé, qu'on organise ces fameuses 5 familles en prophétie.
Ouais, avec un peu du coup le Luciano dirigeant spirituel, quoi.
Voilà. Et en fait, c'est là où il est assez malin, c'est qu'il promet en fait un espèce de pouvoir égal et que le partage de l'argent se ferait équitablement et qu'il y aurait toujours une réunion des parrains afin de prendre certaines décisions. Et le fait de prendre certaines décisions fait, est-ce qu'on élimine telle personne? Est-ce qu'on organise tel business? Par exemple, au début, il est un peu... il y va reculant sur la prostitution et la drogue.
Ils n'aiment pas bien ça?
Non, pas trop. Bien que il sera condamné pour ça d'ailleurs.
L'argent n'a pas d'odeur?
Non. Et le fait qu'il ait organisé ça, avec les plus grandes familles dont on parlera une par une après, en fait, Luciano va commencer à régner réellement en maître. Mais pas que à New York, quasiment sur tous les États-Unis. Et un peu plus tard, il organisera ce qu'on appellera vulgairement le Yalta du crime. Ce sera au niveau international. Et en plus, il a à peine 34 ans. Et justement, il règne sur tout le milieu et il va réunir une conférence à Chicago. Et à l'époque, Al Capone était encore là. Donc Al Capone sera là, au Park Avenue, l'hôtel, pour annoncer les grandes lignes en fait, de son immense projet. Et en fait, il va prendre exactement auprès de Arnold Rothstein toute la discipline, mais de façon totalement illégale. Et en fait, il va même faire une structure, une structuration économique et voire une politique interne.
Est-ce qu'il n'y a pas des sortes de fonctionnaires dans cet état du crime? Je ne sais pas, des comptables communs, des tueurs qui travaillent spécifiquement pour les 5 familles?
Oui, il y en a toujours. Parce que chacun conseille les uns et les autres. En fait, il y a une espèce de... On va dire...
Une ubérisation du meurtre.
Pas ubérisation, à ce tarif-là, c'est plus l'ubérisation. Et en fait, le problème de le problème, c'est en structurant ainsi, chacun va conseiller, bah tiens, un tel, il fait ça bien, il fait bien le ménage. Donc on utilise toujours des mots de code. Et en plus, là où Lucky Luciano a fait très très fort, là où il est beaucoup plus imposant que d'autres, c'est qu'à un moment, on va l'appeler l'innominato, c'est-à-dire celui qu'on ne peut pas nommer. C'est-à-dire que si on le nomme, même le fait de dire son nom pourrait signer votre arrêt de mort.
Dans le genre prestige, c'est quand même pas mal.
Ouais, et en fait, en sachant qu'il a mis en place... déjà, c'était déjà la loi du silence, mais alors là...
Bah oui, là, si on peut même plus dire son nom, là, c'est l'omerta à un autre niveau. Hein.
Ouais. Et en fait, en plus, bon, à l'époque, les journalistes qui aimaient bien ça. Hein. Donc, ce syndicat qui crée ce fameux conseil se charge de tous les contentieux, des assassinats, de répartir les business selon les secteurs. Et en fait, il a même créé une force de frappe qu'on va appeler vulgairement le Murder Incorporated.
Tout est dit dans le nom.
Et en fait, une société anonyme spécifiquement pour le meurtre, mais sans aucune initiative personnelle, ni de crime gratuit.
Des sous-traitants, quoi, un peu.
Mais en fait, il faut que ça soit justifié. On ne tue pas comme ça, impunément. Et en fait, et c'est là qui est très particulier, parce qu'il le dira lui-même dans ses propres mémoires qui ont été publiées 10 ans après sa mort. Mon organisation n'a jamais tué d'innocents, on s'est tué qu'entre truands. Ou en fait, comme il dit, entre gens de mauvaise vie.
Et ça, est-ce que c'est vrai
Jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai, parce qu'il disait que pour les autres, c'était juste une question d'argent pour qu'ils se couchent ou qu'ils collaborent. Donc en gros, ils pouvaient acheter tout le monde, mais dans le milieu, généralement, il y a des gens, on ne peut pas forcément les acheter, vu qu'il va falloir directement les éliminer. Et en fait, parce qu'ils pensent que tout le monde est achetable à partir de là. Et en fait, bon, le fait qu'il soit un peu comme ça, mais en 1936, il y a un procureur, Dewey, D-E-W-E-Y, Thomas, d'ailleurs qui va être le personnage de sa vie, parce qu'ils se sont croisés, ces braves deux hommes, en fait, va commencer à prendre le dossier de Lucky Luciano et voir si on peut pas lui réserver le même sort qu'Al Capone à l'époque. Parce que là, Al Capone est déjà en prison. Et en fait, il va mettre au jour un immense réseau de prostitution que Luciano est accusé d'organiser selon des procédés d'optimisation industrielle. Voilà comment c'est décrit dans le rapport. Ça va quand même très loin. Donc, le procès aura lieu. Il a beau se défendre, ça ne fonctionne pas. Et en fait, là où l'anecdote est assez, entre guillemets, cocasse, c'est qu'un des amis de Lucky Luciano, qui était un de ses hommes de main, était avec une femme qui, elle, était en colocation avec une autre femme. Et cette colocatrice, en fait, son petit ami était policier.
Ah.
Et comme les deux nanas, en fait, les deux femmes se parlaient en permanence, Il a compris de quoi elle parlait et de qui elle parlait.
Ah, ça c'est...
Le concours de circonstances un peu...
C'est malheureux, oui.
Donc Lucky Luciano sera condamné justement pour ça. Pour prostitution, souteneur. Et donc il va écoper d'une peine de prison qui est quand même assez hallucinante pour l'époque. De 30 à 50 ans d'emprisonnement.
On lui fait payer discrètement ses
tout
autres
le reste.
Activités. Quoi.
Toutes les autres activités qu'on n'arrive pas forcément entièrement à prouver. Donc il est incarcéré à Sing Sing, prison qu'on connaît pour d'autres personnes. Où en fait, alors c'est là qui est assez particulier, comme c'est un homme assez raffiné, plutôt intelligent et cultivé, et ben en fait il est bibliothécaire dans la prison. Et en plus il continue à gérer ses affaires en réalité.
Et ça doit aider aussi à faire passer les messages, des choses comme ça, non ?
Beaucoup de choses comme ça justement. En plus, il voit souvent ses avocats, et surtout des avocats fiscalistes et autres. Et en fait, il continue à gérer ses affaires, et en fait, ça commence aussi à déranger, parce qu'en plus, il se fait livrer des plats d'un des meilleurs restaurants italiens de la ville.
Ça lui ressemble bien.
Voilà. Donc, 30 à 50 ans, on voit qu'on est en 36, hein, je me rappelle bien. Donc, la guerre est en train d'arriver. Mais en fait, c'est justement grâce à toutes ces incontances politiques, il est plutôt bûchonné. Donc, en fait, il va même... avoir un traitement de faveur, il pourra se faire livrer les plats qu'il veut, et certains détenus diront même bah, il avait même du champagne, du caviar et d'autres plats, et il voyait même ses associés au parloir.
Il était mieux nourri que les gardiens, quoi.
Bah, ce qui, je pense qu'il avait soudoyé certains gardiens aussi. Et en fait, il continue, comme ça, à gérer cet empire, et en fait, à présider le conseil, malgré qu'il y en a qui essaient de le mettre de côté. Et c'est en 1942, et 42 c'est important, il sera transféré au Great Modao, une immense maison, et en fait dans une maison de repos en réalité, un système pénitentiaire où en fait on lui assouplit. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est que le paquebot le Normandie, qui était à New York, a sombré, il a été incendié et coulé. Et les Américains ont une peur bleue, une chose importante pour eux, c'est qu'il y a beaucoup de réfugiés et d'Allemands.
Mmh.
Et ils pensent que certains sont des sympathisants nazis, voire des espions.
Des espions, ouais.
Et là, en fait, le fameux procureur et d'autres, Dewey, qui l'avait lui-même mis en prison, en fait, viennent plus ou moins négocier avec lui. Mais ça, c'était négocié par d'autres intermédiaires, je pense, du milieu. Ils ont vite compris qu'en fait, ce conseil présidé par Luciano avait tous les syndicats, tous les dockers avec lui. Donc, pour surveiller le port... c'était peut-être préférable de passer par eux.
Parfois, ça peut être utile d'avoir des gangsters dans sa poche autant que d'avoir des politiciens dans sa poche.
Oui, il y a eu ça aussi en France avec la résistance et des mouvements de résistance qui ont collaboré avec le milieu. Hein. Et le milieu avec Acalobar aussi. Et en fait, il va accepter. Mais en échange, lui, il demande une d'être libéré. Et eux, ils vont dire non, un allègement de peine. Et c'est pour ça qu'il est transféré dans une espèce de maison de repos plus que d'une prison. Et tout se passe bien pour lui. Il est content, il dit voilà, moi je vous rends service, et ils verront après, un peu plus tard, ce qui va se passer. Il sera libéré d'ailleurs après, mais avec sous condition. Donc, en faisant sorte de distribuer des cartes à tous les mafieux et à ces hommes de main, en fait, il surveille le port. Et là, il y a deux théories qui s'opposent. La première, c'était véritablement des Allemands qui ont fait couler le bateau, qui était un navire français, hein, je précise, qui est l'ancêtre du France.
D'accord.
Qui devait être transformé en navire de guerre. Et revendu aux Américains. C'était une opération commerciale pour la France, bon bah, qui a un peu échoué.
Oui, c'est le cas de le dire d'ailleurs.
Alors donc il y a cette théorie-là qui dit que c'est les Allemands qui ont saboté le bateau et d'autres bateaux en fait. Mais alors il y en a une autre, et ni Luciano dans sa biographie propre n'a démenti, ni ses hommes de main n'ont démenti, donc en fait il nous laisse dans un flou, que en réalité ce serait Luciano et certains de ses hommes qui ont organisé tout ça, à faire pression, disant que ce sont les Allemands, comme ils connaissaient la paranoïa de certains gouverneurs et autres, et de jouer sur cette paranoïa pour avoir des allègements de peine.
Ce serait malin, ce serait...
Ah, machiavélique même.
Machiavélique, ouais.
Parce que là, on aurait affaire à quelqu'un non seulement de plus subtil que les autres, et qui jouait avec des coups d'avance, un joueur d'échecs. Donc, ils y arrivent. Ils arrivent à plus ou moins stabiliser le port et à réguler tout ça. Et c'est en fait, c'est en 1946... bon, 45-46, où en fait il sera libéré, sera remercié en tant que patriote américain. Mais il n'est pas né aux États-Unis, il n'a pas la nationalité américaine, il n'a pas la green card.
Un beau symbole d'intégration.
Ouais, mais il ne l'a pas. Et en fait, on va l'envoyer en Sicile. avec interdiction de revenir sur le territoire américain.
Ils sont pas très reconnaissants, ces États-Unis.
Et c'est Thomas Dewey qui veut devenir gouverneur, ceci dit, qui fera en sorte que ça se passe ainsi. En sachant que Dewey serait venu voir plusieurs fois Luciano, dont une qui est assez cocasse, que je trouve ça très pour un procureur, qui aurait été voir Luciano en lui disant « Depuis que je vous ai mis en prison, ma maison a été incendiée 3 fois, ma femme réclame le divorce. » Est-ce que vous m'auriez jeté un sort sicilien? Et si vous pouvez le défaire? Et Luciano dit ouais, peut-être. Genre, il y croit même pas lui-même. Il dit, attends, il y a un procureur qui m'enferme, qui me parle de sort, de mauvais sort, de mauvais œil.
C'est cocasse, en effet, surtout venant d'un procureur. Mais il était sérieux ou il plaisantait?
D'après Luciano et d'autres qui ont entendu parler de la lunette, apparemment, c'était sérieux.
Dites-moi.
Alors que Luciano le prend aussi à la rigolade.
Si j'enferme Luciano et que ma maison brûle 3 fois, je me dirais que c'est peut-être plus Luciano que la magie noire, ou je ne sais pas, non?
Voilà. Donc, il est en Sicile, mais il va quand même, en fait. Le problème de la Sicile, c'est qu'il est loin. Donc, pour gérer les affaires, ça va être plus avec des intermédiaires. Donc, il reçoit des enveloppes pour ce qu'il a. Mais les enveloppes vont commencer à s'amenuiser quand même. Entre deux, lui, il commence à avoir une vie un peu trop paisible à ses yeux. Mais il arrive à conseiller des personnes à droite et à gauche, mais il veut quand même retourner aux États-Unis. Et en fait, là où c'est assez malin, c'est que Meyer Lansky, Frank Castellano et Joey Adonis vont organiser une conférence, mais à Cuba.
La fameuse qu'on voit dans le Parrain 2.
Voilà. Donc, à la Havane. Et là, Luciano va être à 150 km des États-Unis. Ce qui va déplaire aux Américains quand ils vont l'apprendre.
J'imagine, oui.
Ils disent non, là, c'est qu'est-ce qu'il nous fait? Donc, il arrive là-bas, il arrive avec de l'argent, en plus, pas qu'un peu. Parce qu'ils vont soutenir le régime cubain.
Pas forcément que du propre, j'imagine.
Voilà.
Donc, le régime cubain qui est pro-américain à l'époque, non?
Pas forcément, non, justement, d'accord. 60, c'est en bascule. Et en fait, Luciano va acheter, pour la somme de 150 millions de dollars, avec l'aval de Batista, donc c'est avant Fidel Castro, le National Hotel, lui donne réunion, donc en fait, il est propriétaire, donc il est chez lui, il fait un peu ce qu'il veut. Et en fait, non seulement cette réunion va lui permettre de se rapprocher des États-Unis, mais surtout de réaffirmer son rôle de dirigeant du syndicat et en même temps de la centrale principale. Donc, on y trouve beaucoup, beaucoup de gens, donc Anastasia, Bonanno, Joseph, et surtout Vito Genovese.
Ça, c'est un grand nom, ça.
Ouais, et surtout qui est le bras droit de Luciano, et que surtout les deux sont en concurrence en réalité.
D'accord.
Tommy Lucchese, Marcello, Moretti, Profici, et en fait, il y en a toute une liste. Et en fait, ils vont tous investir dans le casino de la Havane, et ils vont en profiter aussi pour éliminer le fondateur de Las Vegas, Bugsy Siegel.
Ouais, légendaire aussi dans le genre.
Et en fait, lui, c'est à ce moment-là où on décide de l'éliminer pour une raison simple, c'est que tout le monde lui a donné de l'argent. Disons que une grande partie est restée dans sa poche.
L'appât du gain n'est pas bon pour la santé.
Non. Et en fait, là, il a fallu, comme la commission lui avait prêté énormément d'argent, Luciano a passé son temps à le protéger. Meyer Lansky aussi. Mais arriver à un certain point, si on a une position aussi haute, est-ce qu'on peut protéger réellement tout le monde?
On ne peut pas se permettre de passer pour faible.
Eh ben non. Donc, ils vont rendre l'arbitrage assez rapide. On l'élimine. Ils en profitent aussi pour régler une petite querelle entre Genovese et Anastasia, qui ont un vieux contentieux. Parce que les deux ont forcément des alter-ego assez forts. Alors, il faut savoir une chose sur Genovese, c'est que celui qui va l'éliminer, c'est Luciano lui-même.
Il va le tuer lui-même sans avoir recours à un tueur.
Dans un couloir d'aéroport, il va lui casser le bras, les côtes, il va le tabasser.
Voilà, oui, ça ressemble plus à Capone qu'à Luciano, comme ça, à première vue.
Oui, mais là, c'est que Genovese a été trop loin.
Ah bah là, oui, on peut imaginer, oui, effectivement.
Parce que c'est lui qui a dénoncé certaines petites imprudences de Luciano, et Luciano le dit lui-même dans son livre qui s'appelle Testament, qu'il a été obligé d'en arriver là avec son meilleur ami parce qu'il avait dépassé les bornes.
Ouais, c'est très mal vu de dénoncer.
Oui, Et c'est à partir de là, bon, il comprend qu'il doit repartir parce que... Donc le gouvernement américain dès 37 fait pression sur Batista en disant non, les autres mafieux, si vous voulez les garder, vous les gardez, mais Luciano, faut pas qu'il reste sur le territoire. Et surtout, les Américains vont faire quelque chose, c'est qu'ils vont arrêter, ils vont dire à Batista, qui était le dirigeant de Cuba, qu'ils arrêteraient tout arrivage et livraison de produits pharmaceutiques et alimentaires. Ouais, parce que ça... Cuba est quand même sous perfusion.
Okay.
Donc là, c'est moyen. Bon, c'est pas grave. 1947, Luciano rentre à Naples. Et il mène quand même la vie assez... Parce qu'il reçoit de l'argent assez régulièrement, même si ça s'amenuise. Il va organiser une autre forme de trafic. Et ça, je vous l'expliquerai pour la semaine prochaine.
Avec plaisir. Bah, à la semaine prochaine, Docteur Mansour, pour la suite de l'histoire palpitante de Lucky Luciano.
Le Blabla Mix, 99.1 et 102.4 FM.
Et enfin, nous allons pouvoir parler féminisme un petit peu avec des femmes qui forcément s'y connaissent un petit peu mieux que nous. Nous sommes avec nos invités, Madame Milesi, Fatima Milesi, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un plaisir de vous recevoir.
On était deux, hein, donc
Oui. Si vous voulez bien vous présenter, voilà. Présentez justement votre collègue.
Non, elle va se présenter. Moi, je suis membre de l'ASTI de Petit QI, donc on va vous expliquer un peu ce qu'on fait demain et ce qu'on fait par rapport aux femmes, pourquoi c'est important le 8 mars. Et puis je vais donner la parole à Ayette.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je suis Ayette, je suis aussi membre de l'ASTI. Je suis bénévole et voilà, on travaille ensemble en fait pour voilà, sur ce projet-là. Du coup, on a envie de faire quelque chose avec les femmes demain.
Justement, vous voulez bien nous présenter un petit peu cet événement? Venez nombreuses pour participer, échanger, tout ça. Vous voulez bien nous le présenter?
Peut-être avant de présenter l'événement, vous dire qu'en fait, on ne pose pas la question des droits des femmes uniquement le 8 mars, mais on la pose toute l'année parce qu'on d'abord, à l'ASTI, on reçoit beaucoup de femmes, immigrées ou françaises, et aussi beaucoup de femmes sans papier. Et donc, on pense qu'on est bien placé pour témoigner, pour permettre aux femmes d'exprimer les violences et les discriminations qu'elles subissent.
Oui, parce que
à la fois des discriminations sexistes et aussi racistes.
Hein, oui, parce que l'ASTI, c'est pas. Si, je veux juste le rappeler pour nos auditeurs. C'est l'association de solidarité avec toutes les immigrées. Donc, c'est pas forcément, tous, bien sûr. C'est pas forcément spécifiquement pour la femme. C'est pour tout un tas de thématiques.
Oui, et l'ASTI, c'est pas simplement, on a conservé l'appellation, on est fédéral à l'ASTI, donc solidarité avec tous et tous les immigrés, toutes les immigrées, mais on est aussi sur un quartier politique de la ville, hein, le quartier de la piscine à Petit-Quevilly, et on travaille aussi avec des habitants du quartier, quelle que soit leur origine culturelle, donc des Français et des non-Français, on va le dire comme ça.
Alors cet événement, du coup, en quoi il consiste?
Alors, avant de vous parler de l'événement encore, vous dire qu'en fait, on a créé au sein de l'ASTI un groupe de femmes.
Oui.
Donc l'idée, c'est pas simplement de nous proposer des activités aux femmes, mais plutôt de favoriser l'auto-organisation des femmes pour l'accès aux droits fondamentaux des femmes.
Oui, donc pas juste...
Donc le groupe, c'est un groupe qui s'appelle Espoir de Femmes. Donc peut-être Hayette va pouvoir expliquer un peu les objectifs de ce groupe et puis vous direz aussi, nous, un petit peu le contenu de la fête et un peu les revendications des ASTI par rapport aux femmes.
Avec plaisir.
Oui. Donc, en fait, le groupe a été créé précisément en octobre 2018 à l'ASTI. Et dont les objectifs sont partager des activités, échanger des savoir-faire, se soutenir et être solidaire, se mobiliser pour l'accès aux droits fondamentaux de toutes, sensibiliser et informer sur les droits des femmes.
Okay,
et voilà, en fait, on reçoit beaucoup de femmes et elles sont très contentes d'échanger, parce que chacune a un besoin de s'exprimer. Et, ouais. Voilà, donc elles sont très contentes d'être ici. Il y a aussi Vincent qui intervient quelquefois afin de voilà de les sensibiliser et de leur parler de leurs droits fondamentaux. Voilà.
Oui, c'est important de sensibiliser à ces problématiques qui ne sont pas forcément évidentes, surtout pour des hommes. Là, je ne sais pas si vous avez entendu le début de l'émission. Là, les circonstances font qu'on n'est qu'entre hommes. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour nous autres de se rendre compte des problématiques qui concernent spécifiquement les femmes et également les femmes immigrées ou non. Hein. Et d'où alors, l'intérêt donc de cet événement ?
Oui, alors en fait, ce qu'on peut-être souligner, qu'à la fois il y a des combats ou des discriminations, des violences qui vont concerner toutes les femmes. Hein, par exemple, demain après-midi, il y aura deux femmes qui sont membres du collectif Droits des Femmes de Rouen, parce qu'il y a la volonté justement de, c'est une journée internationale hein, pour les droits des femmes, à la fois de parler des droits des femmes françaises, on va dire comme ça, et puis de parler aussi des problèmes spécifiques des femmes immigrées.
Oui,
pour donner des exemples par rapport aux problèmes spécifiques des femmes immigrées, par exemple, nous à la Cire, on reçoit des femmes qui ont été victimes de viols, hein, qui viennent de pays en guerre, qui arrivent difficilement à obtenir l'asile politique. On a aussi des femmes qui vont venir, qui vont s'exiler parce qu'elles refusent, par exemple, que leur fille soit excisée, hein, puisqu'il y a la problématique des mutilations sexuelles. On a aussi des femmes qui portent le foulard ou le hijab et qui souffrent de ce qu'on appelle l'islamophobie, de discrimination par rapport au fait qu'elles portent un foulard. Je pense que c'est un peu dans l'air du temps en ce moment.
Oui.
Donc nous, on a aussi besoin d'exprimer. Dans les femmes qui composent le groupe, par exemple, il y a une part importante des 20-25 femmes qui portent le foulard et d'exprimer aussi que on peut être féministe et porter un foulard, ce qui est quelque chose qu'on a du mal à entendre, notamment en France. Nous, ce qu'on revendique, c'est la liberté de porter ou non, c'est-à-dire la liberté de disposer de son corps, de s'habiller comme on l'entend. Et bien sûr qu'on est, on est contre le fait de forcer une femme ou une petite fille à porter un foulard, mais par contre, ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où il y a la liberté de choix, on ne voit pas en quoi ça peut poser, ça peut être problématique, et on pense que toutes les femmes doivent lutter pour l'égalité des droits, en fait. Hein.
Oui, on pense à cette polémique récente là, sur le hijab running de Decathlon.
Bah oui, c'est un bon exemple hein, que vous me donnez là, parce qu'effectivement, on a l'impression que tout est fait pour diviser, on nous parle de vivre ensemble et que justement un des mots d'ordre demain de l'initiative Contron, c'est la solidarité entre toutes les femmes,
ouais.
Dans le respect de la diversité, des cultures de toutes les femmes, et je pense que c'est ensemble qu'on va pouvoir avancer.
Donc du coup, demain je le rappelle pour nos auditeurs, parce que c'est important, je le rappelle pour nos auditeurs, c'est de 14h à 16h à l'Asti 17 rue Pablo Neruda. Hein.
Voilà, donc il y aura des vidéos, donc on a sélectionné des petites vidéos en fait, donc il y en a une qui une petite vidéo qui donne la parole à des femmes des quartiers populaires, puisqu'on est en relation avec un groupe Seine-Saint-Denis qui s'appelle Les Femmes en France.
On vous entend mal.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une négativité au niveau des salaires, qu'elles sont en revenu d'appoint.
Ouais, je suis désolé, on a raté une partie de votre élocution, on a eu un petit souci technique apparemment.
Donc, vous entendez mal
qu'on... Non, on vous entend bien, mais là, je ne sais pas pourquoi ça a coupé d'un seul coup. Donc, je vous propose, le temps qu'on règle ça, qu'on parte sur un petit morceau de musique et on revient tout de suite pour reparler de cet événement et toutes ces problématiques.
Ça marche.
Eh bien, c'est parti.
I can't escape all the voices, and so I turn it up. I go to parties with strangers, so I can figure it out. I run through a city at midnight to feel like a star. I want it all. Yeah.
Vous êtes toujours sur la radio HDR en direct du Blabla Mix.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Et nous sommes de retour avec nos invités Fatima Milesi et sa collègue Ayette qui nous parle des problématiques des femmes en général et bien sûr de leur événement de demain à l'ASTI, 17 rue Pablo Neruda. Rebonjour mesdames.
Rebonjour.
Ah, donc vous nous expliquez un petit peu comment ça allait se dérouler cet événement avant qu'on ne soit séparés.
En fait on était en train de parler des problématiques en même temps et de la question que vous aviez parlé, vous, du Hadjem Rahim, là, le fait que ça pose problème et que... Ça a été médiatisé pendant du temps. Moi, je voulais quand même insister sur un point, parce que je pense que tout le monde n'est pas informé de ça. En France, la femme immigrée n'a pas d'autonomie juridique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui vient en France parce qu'elle est conjointe de Français, ou qui vient en France dans le cadre du regroupement familial pour parce qu'elle a épousé un migrant régulier, on va dire ça comme ça, si elle subit des violences, par exemple... et si elle quitte le domicile conjugal, elle n'est pas assurée de pouvoir renouveler son titre de séjour.
C'est-à-dire que concrètement, ces femmes sont un peu privées de leurs droits, quoi.
Bah oui, complètement, oui. Ça veut dire qu'en fait, elles sont dépendantes du conjoint. Nous, on voit ça très, très fréquemment. Il y a aussi un autre élément qui me semble important à souligner, c'est le fait que des femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui sont sous ordonnance de protection du juge, hein, du juge aux affaires familiales, malgré des textes, parce qu'il y a eu des circulaires, nous on voit que ces femmes se voient notifier des refus de séjour et des obligations de quitter le territoire.
L'État français peut-être laisse ces femmes un peu...
Il n'y a plus de vie commune, et que c'est la vie commune au départ qui leur permet d'avoir un titre de séjour.
Ouais, donc elles sont complètement abandonnées par l'État qui doit les protéger.
On a plusieurs femmes dans notre groupe hein, qui sont des femmes qui sont devenues des femmes sans papier parce qu'elles ont quitté le domicile conjugal à cause de violence.
Ouais. D'où le...
Donc, on soulignait la contradiction entre d'un côté d'avoir des personnes qui s'offusquent en considérant que le IGM ou le voile c'est un symbole de soumission, et au nom de l'émancipation des femmes et des droits des femmes, on va condamner ça et en même temps, on ne va pas permettre aux femmes d'avoir une autonomie juridique pour pouvoir vivre pleinement dans la société. Quoi.
On a l'impression que ces femmes immigrées qui subissent ces violences, qu'elles soient racistes ou sexistes, sont un peu assises entre deux chaises. En fait, d'un côté, moi c'est l'impression que j'ai de mon point de vue, d'un côté on a les gens qui vont défendre ce qu'on appelle aujourd'hui les racisés entre guillemets et qui vont pas trop s'intéresser aux problèmes des femmes, les gens qui vont défendre les femmes qui vont pas trop s'intéresser aux problèmes des racisés entre guillemets. Vous essayez un peu de faire le pont, de passer au-delà de ces différences pour essayer de défendre tout le monde, c'est bien ça?
Je trouve ça vraiment super le mot que vous avez employé, parce que s'il y avait un mot d'ordre pour qualifier l'ASTI, ce serait des ponts et pas des murs.
C'est un très bon mot d'ordre.
Effectivement, nous on pense que on est ravis par exemple demain d'accueillir des femmes du collectif Droits des Femmes, parce qu'on pense que dans ce collectif il y a vraiment pas ou peu de femmes immigrées, et qu'on puisse ensemble lutter pour les droits de toutes les femmes, et qu'il n'y ait pas de division. Mais bon, je crois que ce qu'on dit par rapport aux femmes, on pourrait le dire par rapport à l'ensemble de la société. Hein. C'est pas être féministe, c'est pas être contre les hommes.
Oui, bien sûr.
Et nous on pense que si on veut vivre ensemble dans la société, il faut respecter la diversité et puis lutter ensemble pour l'émancipation de toutes les personnes et pour l'accès aux droits fondamentaux de toutes les personnes.
Oui, je suis bien d'accord. Hein. Est-ce que vous ressentez une libération de la parole sur ces thématiques ces dernières années?
Ça dépend comment j'entends votre question. Je ressens à la fois qu'il y a une libération de la parole raciste, oui, enfin, on a parlé à un moment donné de... l'opinisation des esprits, c'est une réalité, hein. Il y a effectivement une libération de la parole et on le voit tous les jours au niveau des médias, notamment. Et à côté de ça, moi je trouve que par rapport à la loi qui était sortie, qui permet d'exclure des filles qui portent le foulard et qui veulent aller à l'école, où ça avait déchaîné vraiment des passions, y compris au niveau du mouvement féministe, hein, où on avait effectivement... ce que vous avez dit, d'un côté des féministes racisées, de l'autre des femmes, on va dire, occidentalisées, même je pense qu'on a des cultures un peu complexes, tout ça, tant qu'on est, donc moi j'aime pas trop les catégories.
Oui, je suis assez d'accord.
Et je trouve qu'à ce niveau-là, il y a du progrès. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a moins de crispation au niveau des féministes, française.
Oui.
Nous, par exemple, on est allé, il y avait une conférence qui était organisée avec un débat par le collectif Droits des femmes de Rouen. On est allé avec des femmes du quartier, beaucoup de femmes immigrées, donc bonne partie portent un foulard. Et il y a pu avoir une expression et une compréhension mutuelle. Il y a encore un peu de crispation. Mais j'ai envie de dire, comme il peut y avoir des crispations quand on aborde, nous, la question de l'égalité des droits par rapport à l'orientation sexuelle.
Oui.
Et je pense que c'est en favorisant des ponts, des dialogues, qu'on va arriver à dépasser des préjugés et puis à revendiquer les mêmes droits pour tout le monde.
Ouais, des ponts plutôt que des murs, quoi. C'est un joli mot d'ordre.
C'est clair.
Alors, est-ce que vous organisez d'autres projets comme ça prochainement
Là, déjà, pour demain, donc, il va y avoir des vidéos. Donc, je vous ai parlé de l'appel des femmes en lutte 93, mais il y a aussi un clip vidéo qui dure 2 minutes sur des femmes coiffeuses qui ont lutté sur Paris, les femmes sans papier.
Oui.
Parce qu'effectivement, les femmes sans papier sont surexploitées. Hein, je pense que ça, elles travaillent, hein, elles sont surexploitées en général.
Les sans papiers en général.
Ils ont lutté pour leurs droits. Et on a prévu aussi une intervention. Ayette parlait de Vincent. En fait, Vincent, c'est un juriste qui travaille à l'ASTI.
Vincent Quadio, c'est bien ça?
Voilà, et qui va donc donner des éléments juridiques, hein, bon, ça peut être en cours de droit, mais sur les violences faites aux femmes et ce que dit la loi, notamment par rapport aux femmes d'immigrés. On a aussi une étudiante qui est en stage à l'ASTI qui a pu faire un livret pour expliquer aux femmes victimes de violences les droits qu'elles peuvent avoir. Et puis on a trouvé une petite vidéo qui a été produite par Amnesty International, qui montre en fait les violences faites aux femmes dans différents pays du monde. Parce qu'on pense aussi que c'est une lutte internationale des femmes. C'est important qu'on puisse avoir une vision des problématiques et des atteintes aux droits des femmes, pas simplement en France, quoi.
D'où la Journée internationale des femmes. Bon, merci mesdames de nous avoir parlé de ces problématiques qui sont importantes. On espère.
Le 20 mars, on va faire une initiative à l'ASTI. Donc, il y aura notamment Mamadou Camara que vous connaissez, qui travaille là-dessus, avec Zoubir, etc. Et c'est par rapport à la Journée internationale contre le racisme.
On tâchera d'en reparler sans souci. N'hésitez pas, on en reparlera, vous et moi, en off. Je vous laisserai mes contacts. Par contre, malheureusement, là, on commence à tomber à court de temps. Donc, je vais devoir vous dire au revoir, mesdames, et vous remercier.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt, mesdames.
Bon
courage pour demain. Voilà, c'était Fatima Milesi et Ayette qui venaient de l'ASTI, qui venaient un petit peu nous présenter cet événement sur les thématiques et les problématiques qui concernent les femmes immigrées, les femmes en général, à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Sur ces notes un petit peu tristouilles, on va bientôt devoir se séparer, hein, puisqu'il est 17h56 déjà. L'heure passe vite quand on écoute le Blabla Mix. Et heureusement, après le Blabla Mix, ce n'est pas la fin du monde, il reste des programmes, notamment sur Radio HDR, puisque de 18h à 19h, il y a la rediff de votre Campus Mag du mercredi, avec Loïc, qui était, je crois, en pleine forme. En tout cas, vous allez écouter ça, et ça va être kiffant. Et pour vous autres, nos amis de l'Eure, de Évreux, de Conches-en-Ouge, de Verneuil et... Je ne me rappelle plus, Marie n'est pas là.
Marie n'est pas là.
Nos camarades du sud de l'Eure et de Évreux, sur le 102.5 à Évreux et bien sûr le sud de l'Eure 95.9, vous pouvez écouter Principe Actif. Et à 20h, il y aura votre programme tous les jeudis, c'est le même, Hit the Road Together. Et même si c'est le même, il est tellement éclectique qu'à chaque fois qu'on l'écoute, on a l'impression de le redécouvrir. voilà.
Big up au Paris Saint-Germain et aux femmes.
Big up à Nico.
À la prochaine.